Toi, tu veux me parler du Carnaval de Québec?
Je veux te parler du Carnaval de Québec, ben je vais t'en parler avec plaisir.
418-971-1021, 418-971-1021, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous en informer. Beaucoup de sorties de route hier, aujourd'hui, ça semble correct, là, mais ce matin sur la route, effectivement, il y avait quelques accrochages, mais ça semble s'être estompé, c'est une bonne nouvelle. Mais si vous voyez des choses qu'on n'a pas vues encore sur le circuit routier, merci de communiquer avec nous.
Je veux vous parler du Carnaval, mais surtout des défilés qui est un incontournable, parce qu'on ne peut pas parler du Carnaval de Québec sans parler des défilés. Si jamais tu veux y aller en famille, rentrer à la maison après ça tôt avec les enfants, chocolat chaud, puis tout, 8 février, mets ça à ton calendrier sur la 3e avenue à Limoilou, dès 17h30, c'est là qu'il faut y aller. Si tu veux profiter d'une soirée, par exemple, un peu plus festive entre amis, bien là, ça va se passer sur la Grande Allée le samedi 15 février à partir de 19h. Hey, c'est quand même près de 300 artistes, ouais. Des performances, chars allégoriques, c'est éblouissant.
J'en parlais avec les enfants hier. Là, ça va être notre soirée, nous autres.
Ah oui, puis c'est gratuit. Fait qu'il faut en profiter. Des belles activités de même dans la Ville de Québec, on est chanceux. Les détails, c'est assez simple. C'est carnaval.qc.ca. Puis comme le carnaval le suggère, du 7 au 16 février, bien, away dehors. Pour plus d'informations, rendez-vous au carnaval, là, encore une fois, .qc.ca.
Vous avez toujours rêvé d'être acteur, actrice, figurant, figurante, puis vous savez pas par où commencer. Bien, on a trouvé quelqu'un qui fait ça depuis quelques temps, qui figurant et acteur, en fait, par le fait même. Son nom, c'est David Nolet. C'est un gars de Trois-Rivières. On a le plaisir de l'accueillir. Il est avec nous, en fait, en direct de chez lui. Salut, David!
Salut!
Merci d'être là avec nous. Présente-toi un peu. On me dit que t'es un homme fort, que t'es un figurant. Là, je te vois, moi, sur Zoom. Effectivement, t'as de l'air à t'entraîner un peu.
Il est bâti, on va dire de même. Hein?
Tu pèses combien? On peut pas dire sauf, mais à un gars, tu pèses combien?
Je suis un costaud, un dodu. Écoute, 6 pieds 1, 320 livres, de délicatesse, de passion et d'amour en dessous de ce beau chandail. Oui, je suis un homme fort, je suis costaud. C'est ce qui m'a aidé à rentrer dans ce monde-là avec un visage pas nécessairement délicat, gentil, doux. J'ai toujours voulu être un beau prince avec des rôles de preux chevalier, mais je pense qu'on met ça de côté. Puis c'est souvent le casting, comme dans Indéfendable il y a quelques jours.
Mais t'aurais pu être une belle grenouille, là.
Oui, je pourrais aussi. Malheureusement, j'ai de la misère à me mettre en petit bonhomme.
Pour les gens, mettons, là, qui. Parce que vous le voyez pas, on fait de la radio. Hein, vous pouvez aller sur le Twitch, vous aurez une image. Mais David, là, je veux dire, bon, 6 pieds 1, très grand gars. Grosse barbe, coco rasé. Tu sais, il fit genre dans gang de rue, mettons, là.
Ah ouais?
C'est là que tu l'imagines, des motards, là. Tu sais, c'est un peu le casting, mettons, qu'on voit vite comme ça, là.
Pour les nombres de rôles que j'ai fait très souvent des motards, effectivement. Dans le film, exemple, Mafia Inc., je faisais un Hells Angels parce que c'est à propos de l'histoire des Hells Angels. Ouais. Dans C'est comme ça que je t'aime, j'étais aussi un motard qu'on a tué avec grand plaisir. Fait que c'est souvent ce genre de rôle-là qu'on me donne, puis c'est bien correct comme ça. Si j'acceptais pas ça, ben je le ferais pas.
Est-ce que tu as toujours voulu être comédien? Est-ce que c'est un rêve d'enfance de faire de la télé?
J'amène ma colline de vie, pour être très franc. C'est pas quelque chose qui m'intéressait, mais j'ai toujours été un peu bouffon. J'ai toujours étudié en art, malgré la face que j'ai et tout ça, de mon secondaire à mon collège. Ouais. Ben, on pense pas que j'étais le gars qui était en art, qui aimait dessiner et faire du fusain, mais je faisais aussi de l'art dramatique. Puis j'étais toujours le gars qui se faisait dire « tu fais de l'overacting, t'en mets trop, etc. » Dans ta face, Madame Paget, secondaire 3, maintenant on me paye pour faire ça à la télévision. Alors, non, j'ai jamais rêvé nécessairement de faire ça, mais on m'a comme tendu la perche avec le film Louis Cyr, où ils cherchaient des hommes forts pour être des figurants en arrière-scène. Okay. Malheureusement, ma shape était trop, je vais me vanter un peu, mais musclée au lieu d'être un gros ton de marde.
Ouais, hein?
J'ai pas eu le rôle à cause de ça parce que j'étais trop défini musculairement. Je le répète encore, je suis très défini musculairement.
Oui, tu peux t'en vanter, David.
C'était juste pour dire que ce côté-là, ça fitait pas avec les hommes forts de l'époque, mais ils ont adoré de quelle façon je jouais. Comment j'étais capable d'être un personnage un peu malgré ma grosse stature. Fait que ça m'a donné et ouvert des portes pour plein d'auditions à côté. J'étais le gars qu'on appelait pour faire des auditions pour des rôles de gros monsieur rigolo, mais l'air méchant.
Mais c'est quoi? C'est des agences qui t'ont approché au départ ou t'avais laissé ton nom quelque part? Ben, à un moment donné, ils ont vu ta photo puis ils ont dit « il fit comme Motor Hells Angels », mettons.
Ben, je faisais des compétitions d'hommes forts avec un de mes anciens partenaires de compétition, puis que lui était très intéressé à faire ça. Il était dans le coin de Montréal, j'étais à Trois-Rivières, j'avais moins accès à ça. Il a dit « on cherche des gens qui ont un bon look, si je trouve que tu fit, tu pourrais... » Bref, le gars finalement faisait juste fantasmer sur moi, mais j'ai pas eu le rôle. Puis, par la suite, j'ai juste continué à faire, ben, je vais m'inscrire dans l'UDA, ça a l'air sympathique, on ne sait jamais. Puis, dans l'UDA, ça marche juste comme un Google search ou YouPorn, ce que vous voulez. Tu marques ce que tu veux voir comme chose à te divertir, ben, tu as une liste d'accès à ce genre de personnes-là. Dans mon cas, tu cherches un gars avec une barbe, stature, musclé, tatou, coco. Puis, je sors dans les premiers avec Marc-André, qui est l'autre gars d'un défendeur avec des tatous de veines sur les bras. On est tout le temps ensemble. Dans toutes les maudites auditions, on tombe ensemble. Lui, c'est un vrai acteur. Moi, je suis un bouffon qui joue à être acteur. Dans la vie, je suis directeur DRH marketing pour une compagnie qui s'appelle 1200 degrés, mais je fais ça pour mon plaisir, mon divertissement. Ça marche comme ça, puis après ça, les castings t'appellent parce qu'eux sont payés s'ils trouvent des bonnes personnes pour réussir les castings. Fait qu'ils cherchent là-dedans, puis ils regardent ce que j'ai fait dans le passé. J'ai comme un CV là-dedans. Puis ils font, hey, le gros, il est capable d'être rigolo, on va l'utiliser. Mais dans tous les rôles, j'ai l'air méchant. Fait qu'on me demande que des rôles de gars que j'ai l'air méchant, surtout.
Je comprends. Mais là, David, ça veut dire que moi, mettons, demain matin, je pourrais m'inscrire à l'UDA, mettre toutes mes caractéristiques, puis ils pourraient tomber sur moi, puis m'appeler pour une audition.
Absolument, sauf que ton problème est qu'il y en a à peu près 176 par année qui s'inscrivent, qui ont à peu près le même
qui me ressemble.
Profil que toi. Ouais.
Toi, tu pensais que t'étais unique.
Je suis pas tant. Elle se pensait unique, mais malheureusement pas, ma belle Audrey, Colin. Il y en a d'autres aux belles filles.
Colin, ouais, c'est ça.
Tu es la plus belle fille de boulevard, mais tu sais, après ça, il y en a d'autres dans le Québec.
Tu sais, quand t'as besoin de quelqu'un pour te remonter, là, Audrey, t'appelles pas David. Non, t'appelles pas David.
Je suis pas spécial.
C'est pas grave, t'as plein de belles qualités, comme tes bottes que tu vas faire réparer. Là.
Absolument.
Tu gardes des choses longtemps, t'es économe, ça me rappelle quelqu'un, j'aime ça.
Fait, donc ceux qui ont des particularités pour être figurant, c'est pas mal la porte d'entrée. Là.
Oui, parce qu'être figurant, c'est zéro payant. Être juste un figurant assis, tu dis pas un mot, tu suis ce qu'il te demande de faire, c'est zéro payant.
Ça te donne pas une scène pantoute.
Ça, ben c'est zéro payant. Ça te donne à peu près 100$ de la journée, mais plus ton déplacement, tu y penses quand même. Mais être figurant dans un rôle, c'est-à-dire un rôle et on te met en scène et on te déguise, on t'habille, on te maquille, tu fais un rôle. Après ça, tu fais un rôle parlé, c'est encore plus payant. Premier rôle, deuxième rôle, troisième rôle, c'est selon... C'est un syndicat, l'UDA. Fait que c'est vraiment, une fois que tu es rentré là-dedans, ils te payent en fonction de ce que tu fais. Il y a un salaire minimum, puis plus t'es bon... Plus t'es populaire, plus il te paye.
OK. Fait que t'as dit figurant, ça peut être 100$ plus les coûts de déplacement. Après ça...
Non. T'as pas de coûts de déplacement. C'est arrange-toi pour venir. Fait que quelqu'un en dehors de Montréal, c'est très difficile d'avoir accès à ce genre.
Fait que c'est 100$. OK. Puis par la suite, après ça, les étapes, c'est quoi? Pour les
étapes, c'est simplement si tu te démarques. Si tu as quelque chose de caractéristique physique, parce que, exemple, je sais pas, tu parlais de la ligne verte tantôt, excellent exemple. Si j'avais été un gars monstrueux, capable de jouer avec plein d'émotions, de délicatesse et de méchanceté en même temps, ben j'avais le rôle pour ça. Là, ils vont te donner des millions parce que tu es un homme unique en ce genre. C'est vraiment le côté où plus tu es particulier, plus tu es différent, plus tu as une valeur, dans le fond.
Peux-tu te demander, si tu es indiscret, tu peux me dire, Audrey, là, tu pousses, là. Mettons le rôle qui t'a rapporté le plus.
Le rôle qui m'a rapporté le plus, c'est la publicité pour Advil. La publicité, c'est plus payant. La publicité d'Advil, la publicité de McDonald's ont été deux publicités très payantes. Je dis pourquoi. McDonald's, parce que ça a duré 16 heures, puis comme c'est un syndicat, ben, après 8 heures, tu es payé tant double, tant triple. Fait que ça, c'est très payant, mais c'était probablement le tournage le plus chiant parce qu'il faisait moins 26 à Hawkesbury dehors. C'était pour les McCrepes. Il fallait que je fasse semblant que j'étais un bûcheron à l'extérieur, encore une fois, un gros casting, et qu'il y avait beaucoup de vent. Fait qu'il y avait une fan industrielle pour les stations de ski qui me pitchait du vent d'en face à moins 26. Ça a été payant, mais ça a été chiant. J'ai pleuré pendant pour faire « Hey, je suis juste plus capable. Je suis gelé, je suis plus capable. » Fait que c'est très dur, c'est très chiant à faire ces journées-là. Une pub comme Advil, où on m'a pris en jet privé, on m'a envoyé à Toronto aller faire un tournage, c'était écœurant, mais surtout, ma voix a été prise. À la fin de la publicité, ils utilisent le « Advil, et c'est reparti ». Ce juste bout de voix-là qu'ils m'ont fait faire m'a donné, et sans aucune cachette, 2000$ par année pendant 4 ans parce qu'ils l'ont utilisé, à simplement utiliser ma voix pour l'espace de 3 secondes. Fait que c'est des choses qui sont payantes. Une bonne publicité que tu es bien payé dans mon niveau, ce que ça veut dire, je suis pas acteur, mais je fais quand même des beaux rôles, ben tu peux aller chercher quand même un 10 à 15 000 $.
La relation que tu peux avoir avec les acteurs et les actrices, ça peut ressembler à quoi? Est-ce qu'il y en a qui te parlent? Est-ce qu'il y en a qui sont sympathiques à ton égard? Puis est-ce qu'il y en a qui veulent juste pas vous côtoyer? On veut des...
La question est écœurante, sincèrement, parce que c'est ça qu'on se dit tout quand on arrive. J'espère qu'ils vont être gentils avec moi. Mm-hmm. Parce que moi, je suis... Surtout quand tu n'arrives pas comme figurant, il s'en fout de toi, il ne parle pas un... C'est rare, il y a quelques gentils acteurs, puis surtout les anciens, qui viennent. Il y avait Jacques Lheureux sur le tournage, qui prenait le temps de dire salut à tout le monde, serrer la main de tout le monde. Super gentil.
Jacques Lheureux, c'était Passe-Montagne, ça.
Exactement. Il faisait un juge dans Indéfendable, puis ça, c'est le monsieur gentil, ça. Mais il y a des gens qui se contrebalancent de toi, puis que tu es juste un imposteur de venir être un acteur. Surtout quand tu as un rôle d'acteur, c'est que selon le DA, ils sont obligés de prendre quelqu'un qui a un statut UDA. Fait que tu le prends, tu viens jouer, mais tu enlèves peut-être la chance à un de leurs chums qui est acteur qui n'a pas exactement la même morphologie. Puis moi, c'est.
Ah.
C'est mon sideline. Fait qu'il y en a qui c'est très, très un milieu fermé. Il y en a qui sont très gentils. Il y a des vrais mardes aussi qui se prennent pour d'autres. Et ça, c'est assez courant. Mais j'ai la chance d'avoir rencontré aussi des petites perles d'acteurs qui sont vraiment généreux. Maxime Roy, entre autres, que je parlais tantôt,
Ouais.
a été super généreuse, super gentille. Elle voulait prendre des photos avec nous autres après parce qu'on était vraiment beau et sexy ou intimidant. Je n'ai pas trop su c'était quoi la vraie raison, là, mais je
Mais non,
pense que
mais
c'est mon
vous
choix.
êtes grand et bâti, là. Je veux dire, Maxime Roy,
Elle est
en tout cas, elle a l'air
minuscule.
petite et minuscule, c'est ça, là.
Je me dis, ça y est, elle va ressembler à Gildor, c'est sa sœur. Ben non, Seigneur, elle mesure 5 pieds, pèse 105 livres, Seigneur, de petite puce. Mais Sébastien Delorme a été un charme aussi, puis il y a
Ouais.
un autre acteur avec qui on était là-bas qui était lui pas un charme. Fait que
Il y a
ça,
de
c'est.
tout, là.
Ouais, mais
Oui, il y a de tout. Il y a des gens très ouverts, très réceptifs, mais les gens les plus gentils sur les tournages, je vous le dis, c'est l'équipe technique, les caméramans sont super gentils, les maquilleuses, les habilleuses, je dis au féminin parce que la majorité sont des femmes.
Ouais.
Eux, maman qui prennent soin de toi, puis s'il y a de quoi de pas correct, David, dis-moi-le. Si t'as froid, dis-moi-le. Si t'as faim, dis-moi-le.
Ah,
Puis
c'est le fun.
dis si t'as faim, dans les tournages, la bouffe gratuite, il y a quelqu'un qui est payé pour juste te donner de la bouffe, te nourrir. Je pèse 320 livres, j'appelle ça le paradis d'avoir quelqu'un qui est payé pour faire ça pour moi. J'adore ça.
Ouais, mais juste pour revenir aux gens qui sont plus ou moins gentils ou extrêmement gentils, on peut faire un parallèle avec les médias, tu sais.
Ben
Quand on
oui.
rencontre des politiciens, moi, celui que je détestais le plus au monde, c'est avéré que quand je l'ai eu en entrevue, c'est le gars que j'ai aimé le plus au monde, c'est Jean Charest. J'étais pas capable de le sentir en peinture, j'étais pas capable de le voir dans les médias, mais quand je l'ai eu en entrevue, je sais pas si c'est un charmeur de serpent, mais il nous a jasé comme si c'était, comme si on était important à ses yeux. Il était vraiment sympathique, il avait une mémoire. Je l'ai rencontré deux fois en fait, puis la deuxième fois, c'était un an et demi plus tard, puis se souvenant encore de la discussion qu'on avait eue.
Ça te fait sentir spécial, ça te
Ben
fait sentir
oui, fait que là tu te
apprécié,
dis un
aimé.
peu là, moi je pensais que c'était un trou du cul. Jean Charest, puis finalement, il pourrait être mon meilleur ami avec qui j'irais prendre une bière
Ouais.
après, tu sais. Mais Jean Charest avait déjà une solide carrière en politique, puis il n'y avait plus rien à perdre, si ce n'est que de prendre un petit moment puis jaser avec nous autres. Mais il y a des politiciens, des fois, qui commencent, qui sont très hautains, peut-être en raison de la nervosité, mais ils sont très hautains. Tu peux pas nécessairement aller partout quand tu leur poses des questions. Fait qu'il y a un petit parallèle aussi avec le merveilleux
Quand
monde
même.
artistique. Ceux qui ont toujours bien réussi, normalement, sont toujours très relax, là.
C'est très vrai. Puis, tu sais, j'ai fait un Ça finit bien la semaine il y a un an ou deux, je crois. Et il y avait un humoriste bien connu qui était là, qui vient de la Beauce, je crois, pour ne pas le nommer. Et qui est super populaire, super sympathique, super charmant en entrevue. Mais avec moi qui étais là-bas, j'étais une sous-merde. Et
Oh,
j'allais
ouais, hein?
là-bas pour y faire un gag, finalement, que j'étais un masseur, qu'elle allait le masser, etc. Et il a été désagréable, mais d'un désagréable incroyable que je suis parti en étant, ben voyons, il est donc bien plat, lui.
C'est une
Fait que.
déception, mais
Ben oui,
oui.
c'est une déception, parce que tu as tendance à idolâtrer ces gens-là.
Mais
Tu dis,
avec
crime, absolument.
raison.
Ils représentent, tu sais, ce que la plupart des gens aimeraient faire,
Ouais.
c'est-à-dire faire de l'argent tout en faisant un métier d'exception,
De
puis de
passion, ouais.
passion artistique et tout ça. Puis finalement, tu as une grosse déception parce que la personne n'est pas exactement ce que tu pensais qu'elle était.
David, je veux qu'on parle des auditions, parce que j'ai le sentiment
Oui.
que pour des gens qui rêvent peut-être de faire ça, que ce soit d'être figurant ou éventuellement bon acteur ou des plus gros rôles, c'est le bout où tu te fais franchement juger les auditions, là. Comment ça fonctionne exactement?
La première édition est toujours la chose la plus stressante. Je ne dis pas la première à vie, mais je veux dire, c'est tout le temps un processus de une, deux, trois auditions avant d'obtenir un rôle ou de ne pas l'obtenir, bien
OK.
entendu. Plus tu augmentes, plus la pression rétrécit. C'est drôle à dire, mais tu arrives là-bas au début, puis pour ceux qui ont peut-être déjà écouté en audition avec Simon, qui était une web-série qu'il y avait jadis, il y a 10, 15 ans, je crois, c'est vraiment très réaliste, ça se passe exactement comme ça. Allez voir ça avec Simon-Olivier Fecteau et Étienne de Passillé qui avaient fait le tout. L'audition, t'es une série de personnes autour de toi, puis tu te dis, bon, là, tu juges tout le monde. Là, c'est le moment d'être bitch dans ta tête, de regarder les gens autour de toi. Il l'aura pas, lui, il est vraiment pas le look que je pense pour la chose. Puis tout le monde se dit la même chose. Mais au fil du temps, tu finis par te connaître aussi. Fait que tu fais comme, ah, Asti, je sais que c'est lui qui va l'avoir. Il fit mieux dans le personnage. Puis chaque fois, ben, tu te plantes. Parce que c'est dans l'œil du réalisateur qui est là ou de l'équipe de réalisation qui est là, qui te font passer l'audition. Ils te font faire n'importe quoi. Ils te font faire ton texte. et des fois, ils te désarçonnent. Moi, écoute, j'ai fallu que je joue un Terminator dans les bois qui venait d'apparaître, Madame Terminator au loin, et qui voulait lui manifester de l'amour. J'ai fait ça en audition. J'ai jamais fait ça de ma carrière de vie. Ouais, ça, c'était pour McDo que j'avais fait ça.
C'était juste pour te déstabiliser, pour voir comment tu t'adaptais?
Comment je vais réagir? C'est François Jaros qui était le réalisateur, qui a fait un superbe travail. Mais c'est comme ça que tu as une espèce de stress, puis t'attends, on te rappelle. OK. Dans une journée, deux, on te rappelle. Puis des fois, tu as le téléphone en sortant, tout de suite le téléphone comme « Yes, je l'ai, good, on te rappelle. » Mais on te le dit si tu ne l'as pas aussi. Mm. Des fois, ça prend plus de temps. Fait que ce téléphone-là est toujours plate à recevoir quand tu y crois. De mon côté, je fais pas beaucoup d'auditions parce que mon casting est très mince. Fait qu'on m'envoie souvent pour des choses que je vais avoir. Mais le stress d'audition, plus tu avances, plus toi, tu as ton stress, mais plus ils sont gentils avec toi. Puis là, ils font comme « On va travailler ensemble. » On va prendre la pâte à modeler que tu es comme un acteur en tant que tel. Pour ceux qui sont acteurs, je ne suis pas acteur. Là. Mais on va prendre la pâte à modeler que tu es et on va te former pour avoir exactement le produit qu'on veut avoir. Là, ça commence à être le fun. Puis là,
c'est intéressant, mais oui. Et y a-tu déjà une audition que tu as fait, que tu voulais le rôle, puis ça a complètement floppé?
J'aurais vraiment aimé travailler dans Plan B avec Pierre-Luc Funk parce que j'aime beaucoup l'acteur qu'il est, puis l'individu en audition était incroyable. Mais vraiment, j'avais à dire dans les termes, c'était dans la série justement Plan B, je faisais un proxénète et je devais lui dire, écoute, il voulait venir voir sa mère, pour ceux qui l'ont vu, en tout cas, il venait voir sa mère, puis le proxénète, il dit, t'as peur, t'as qu'un client. Puis il demande, non, mais c'est important, je la vois. Je dis, ben, attends qu'elle se vide, puis après ça, tu iras y parler. Mm. Fait que vous comprenez l'image, mais il fallait être tellement hautain et méprisant envers un individu, je n'étais pas capable d'imaginer dire ça à un humain. Mais je le voulais, le rôle, puis ils m'ont passé 2-3 entrevues parce qu'ils aimaient ce que je présentais. Finalement, ils ont pris un petit hispano pour faire la job. Okay. C'est correct, c'était la présence.
Pour changer le casting.
Exactement.
Il aurait fallu que tu prennes un accent.
J'ai quoi là que oui, mais j'ai quoi là que mon accent il faisait pas nécessairement l'affaire pour ça. Fait que, c'est un mélange un peu de boss et de gâtisme.
Est-ce qu'il y a des agences qui t'approchent pour dire, regarde, David Nollet, j'aimerais ça te représenter. On sait que tu es figurant, tu as quelques rôles et tout ça, puis on aimerait te propulser ta carrière. Est-ce que ça arrive, ça, des gens qui t'approchent de cette façon-là?
Oui, ça m'est arrivé 2 fois. De mon côté, j'ai toujours dit non parce que c'est pas un métier que je veux faire. Je veux pas en faire plein. Puis quand tu dis ça au monde, ils font « Ah, mais là, mais t'as un beau casting, on va t'en donner plus. Tu sais, tu peux aller faire des films, puis on va t'emmener aux États-Unis. » Puis oui, mais je veux pas faire ça de ma vie. C'est long faire un tournage, en faire un par année, en faire 2 par année. OK, donc je suis pas payant pour eux. Mais aller faire devenir acteur, ça pourrait l'être plus payant, plus le fun, mais c'est tellement éphémère. On m'a demandé pour une série qu'il y avait de faire un garde du corps, puis il y avait un rôle parlé, puis c'était un beau cachet qui était aux alentours de 15 000 $, quelque chose de vraiment le fun, qui était sur 3 fins de semaine, tu sais, puis il fallait que je coupe ma barbe. J'ai dit, ben non, je vais pas couper ma barbe pour 15 000 $. Fait que, tu sais, je suis pas intéressant pour les agences, même si eux m'ont déjà proposé, parce que je choisis ce que je fais ça comme divertissement, comme sideline, j'adore ma job, puis ma job me permet de le faire pour parfois rigoler, bien sûr, avec les autres, surtout quand je fais des rôles j'ai fait un rôle d'homosexuel qui faisait un pâté chinois dans un couple, que j'étais le secret du succès de ce pâté chinois-là. Vous comprenez que la scène est vraiment drôle quand je pile les patates, mettons, puis je travaille dans le domaine de l'incendie, fait que disons que les stéréotypes masculins ou homosexuels sont fortement rigoler. Alors, ça a été bien divertissant. Mais je ne suis pas intéressant pour les agences parce que je ne veux pas en faire une carrière.
OK. Ta barbe vaut plus que 15 000 $. Ça vaut combien, ta barbe?
Ma barbe ne sera jamais coupée. Il y a une seule chose, mon cher, qui a coupé ma barbe, ça s'appelle la chimiothérapie. Ah. C'est le seul moment dans ma vie où j'ai perdu ma barbe et plus jamais je ne la coupe. Ben, je la coupe, je la taille, je la garde belle, c'est un beau panache.
Ouais.
C'est la crinière de lion, mais jamais je vais la reperdre. C'est sûr que là, je te fais peut-être sentir mal en disant que c'est la chimio qui m'a enlevé ma barbe il y a quelques années.
Ah, pas
mais
du tout. Je veux dire, moi, je suis content que tu sois...
Là, t'as pété le mot, David.
Que t'as vécu, là. mais je trouve ça le fun que tu gardes tes principes quand
vraiment,
même, parce qu'il y en a qui seraient prêts à vendre leur mère pour faire ce métier-là. Là.
Ouais.
Absolument, c'est peut-être parce que j'ai pas assez faim, parce que j'ai trop de réserve dans le bedon. Comme je dis, c'est un loisir, c'est un plaisir. Je m'amuse en faisant ça, puis je pense que c'est la bonne façon de le faire. Pour tous ceux qui sont intéressés, qui sont à l'écoute, qui veulent le faire, allez-y, inscrivez-vous à des agences de casting, allez essayer. Ça va vous coûter des frais minimes, puis on sait jamais ce que ça peut donner. Allez faire de la figuration sur des émissions, prenez le temps, prenez ce congé-là, donnez-vous ce loisir-là, mais voyez-le comme un divertissement, un loisir, et non pas comme un métier absolument potentiel. Poussez pas trop, laissez-les venir vers vous, ça peut être vraiment le fun.
Ouais. De le faire pour le plaisir.
Ce qu'on comprend, c'est que toi, ton métier de figurant, si on peut appeler ça un métier, David, là, c'est un plan B, c'est un plan C, c'est un plan D, mais ce sera jamais un plan A. Là.
Absolument, ça ne m'intéresse pas, c'est long, c'est plate. Puis il y a toujours une odeur particulière à avoir du maquillage sur soi. Mesdames, je ne sais pas comment vous faites, mais une espèce de fond de teint, de foundation, de quelque chose là-dessus qui n'est pas capable de respirer. Aïe ça. Fait que sincèrement, non, je suis pas bien là-dedans.
Oui, parce qu'il y a des gens qui trippent à faire ça à longueur de journée, mais je pense qu'on réalise pas à quel point, justement, vous avez des méga shifts quand vous êtes en tournage. Bon, pour ceux qui écoutent Indéfendable, quoique même si vous l'avez pas vu, ça change pas grand-chose. Tu es dans un cabinet d'avocat, tu suis des causes, puis dans la série actuelle, on est dans un moment où, justement, il y a les motards qui sont impliqués dans plusieurs causes, puis tu joues, justement, dans quelques scènes où on peut t'apercevoir. Puis ce qui m'a frappé, c'est que tu es un motard, mais tu as comme un côté quand même un peu rigolo, baveux dans ton facial quand tu joues ton rôle. Puis ça m'a amené à me demander, est-ce que vous avez une liberté à un certain point comme figurant? Tu sais, comment ça se passe sur le plateau? Est-ce qu'on te dit littéralement, ben David, tu vas faire un pas à droite, à gauche, puis tu fais rien d'autre, ou tu as quand même une certaine liberté dans ce que tu peux proposer à l'écran?
Ça dépend toujours du réalisateur, ça dépend c'est quoi le mandat qui est donné, mais la question est excellente dans le sens que... T'sais, moi, je suis arrivé là-bas très tôt le matin, puis je suis arrivé en même temps que deux autres gars, puis on a fait « OK, on a toutes l'air des méchants. » Fait que j'ai juste sorti de mon camion, je me suis dit « Qu'est-ce que moi, je vais faire de plus pour qu'on me mette plus à l'avant, qu'on me voit plus? » Je vais être le psychopathe un peu timbré avec les yeux tout le temps ronds qui essaie de déstabiliser en riant, en regardant les gens comme juste m'a t'arraché la peau sur le corps, mais en même temps, j'ai trouvé ça délicieux comme une chip barbecue.
Oh,
à chaque fois que je regardais les acteurs, c'était un peu ça. En faisant comme « Coucou, viens près de moi, je vais te casser en deux.
»
Il y avait ce petit côté-là que je me suis donné, je vais faire ce rôle-là. Mm-hmm. Puis ça m'a juste popé dans la tête. On a une certaine liberté dans la mesure que le réalisateur est ouvert. Puis là, ben moi, j'essaye toujours quelque chose pour juste être plus vu, qu'il se rappelle de moi. Puis, tu sais, dans la vie, ce que j'aime c'est là-dedans, c'est justement créer un souvenir auprès des gens. Fait que les équipes de réalisation, généralement, j'essaie toujours d'être fin avec eux autres parce que je suis quelqu'un de fin dans la vie. Mais en même temps, par côté opportuniste un petit peu aussi, pour qu'il me rappelle, qu'il fasse comme « Hey, il était drôle, puis il était fin, le gros monsieur, puis il était surtout capable de faire plusieurs types de choses. » On le prend.
Question pertinente d'un auditeur qui m'a envoyé ça sur mon Messenger. Est-ce que les tatouages, ça peut te limiter à certains rôles seulement? Parce que je sais que tu es tatoué. En fait, moi aussi, je suis tatoué. Là. Est-ce que il y a des rôles que tu ne peux pas avoir parce que tu es tatoué?
Je dirais que ça dépend où, bien entendu. Si c'est dans le visage, ça peut être un peu limitatif, je crois. Mais c'est comme ça que je t'aime. J'avais les deux bras tatoués. Ça se passait quand même dans l'époque, dans les années 70. Et bien entendu, des tatouages de ce type-là n'étaient pas chose courante. J'ai deux demi-manches sur les deux bras. On m'a complètement fait un cover-up avec un gros fond de teint, un foundation très épais. Fait qu'une fois qu'ils t'ont choisi comme physique, ils vont s'arranger pour t'enlever ça. Ils vont te mettre des manches longues. Ils vont te couvrir. Écoute, c'était la première fois de ma vie. Pas la première fois, mais que je me voyais finalement, Colin, j'ai plus de tatouage. J'ai pris une photo parce que c'est rare que tu t'en vois avant.
David, je t'ai déjà entendu parler de ton parcours d'homme fort qui t'a, mine de rien, mené, veux pas, à la figuration, parce que c'est ce que tu représentes physiquement aussi aujourd'hui qui a créé ces opportunités-là. Puis tu parlais de mémoire de ton petit garçon intérieur. Puis ça m'avait vraiment, vraiment marqué. Puis j'ai comme envie qu'on ait un peu là, parce que j'ai envie de te demander qu'est-ce que ça t'amène personnellement, le fait justement de faire de la figuration, là, ce petit garçon intérieur-là, là, qu'est-ce que ça peut venir combler?
Écoute, la question est chiante et très bonne, Audrey. Bravo de ta mémoire là-dessus. C'est plus touchant ce côté-là, mais ça permet à juste l'enfant dans de moi. Puis, comme je disais, quand je fais un sport de force, quand je m'avais forcé, je laisse le petit gars aller jouer. Je fais juste ouvrir la barrière pour faire comme. C'est un peu une drôle d'image, mais le petit gars dans de moi, faire hey, vas-y t'amuser, puis fais rire le monde, puis c'est correct, il n'y a personne qui va te juger maintenant. Quand j'étais petit, c'était peut-être moins facile, beaucoup d'intimidation, ce genre de choses-là. Puis la majorité des hommes forts qui sont devenus hommes forts, ben, c'est ça qui s'est passé. C'est pas compliqué. On a toujours fait rire de nous par le passé, puis on s'est dit, ça va arrêter, puis ça n'arrivera plus. Puis aujourd'hui, c'est drôle, il n'y a pas grand monde qui prend plaisir à rire de moi de façon négative, malgré que je suis un excellent bouffon de moi-même. Alors, le petit gars à l'intérieur de moi, quand je fais un tournage, c'est lui qui, quand il est jeune, il était trop gêné pour aller faire de l'impro. Il était trop gêné pour se mettre en scène, puis qui se disait juste « Hey, si je me mets à faire de l'impro à l'école, Colin, vas-tu avoir une vie sexuelle, moi, rendu au secondaire?
Ouais. »
Fait que c'est l'espèce de stéréotype de « Faut que je fasse du sport, faut que j'aille la pression. » Puis on remonte à il y a 20 ans. Maintenant, c'est complètement différent, puis j'encourage ça à 2000%. Mais monte à il y a 30 ans, 35 ans, j'ai 40 ans aujourd'hui. Fallait que tu grandisses avec certains stéréotypes un peu, tu sais. Mm-hmm. Puis je viens de Shawinigan, puis c'était beaucoup moins ouvert d'esprit qu'un homme hétérosexuel veuille faire du théâtre ou ce genre de l'improvisation. Puis là, ben, le petit gars dans moi qui s'est gardé toujours ça en dash, il fait comme aussi, Hey, merci de me le permettre, puis d'aller jouer là-dessus. Je peux aller déconner, m'amuser avec des nouveaux amis, puis juste avoir du fun. Fait que c'est la même chose que Strongman. Je prends le petit bonhomme en dedans de moi, puis je fais juste comme, hey, je te fais plaisir, on va s'amuser, puis on viendra à notre vie sérieuse éventuellement. Mais pour l'instant, garde-toi, amuse-toi, c'est le temps.
Autre question posée par les auditeurs, puis by the way, on est avec David Nollet, qui est un figurant qui joue dans quelques séries, quelques publicités aussi. C'est un homme fort. Ça va, les questions pour lui, 88-971-101, 88-971-102-1. Est-ce que c'est difficile de se voir à l'écran après, une fois le produit fini? Est-ce que tu te dis, ah, oh, j'aurais dû faire ça d'une autre façon finalement? Je pensais pas que ça allait donner ça. Ah, oh, je suis un peu déçu, ou au contraire, je suis vraiment bon, là.
C'est sûr que moi, personnellement, je suis très beau. Alors ça, c'est sûr que je me trouve vraiment beau à l'exposé.
Il m'énerve!
Non, quand je me regarde à l'écran, c'est sûr et certain que je fais comme « Ah, j'aurais dû penser à ça, j'aurais dû penser à ça, j'aurais dû penser à ça. » Fait que c'est sûr et certain que l'auditeur a 100% raison, que tu as un petit regret quand tu te regardes à chaque fois. Mais c'est fait, c'est cané, puis généralement, c'est fait vraiment d'avance, tu sais. J'ai fait un truc pour Juste pour rire, les gags Juste pour rire, il y a 2 ans, puis c'est passé cette année. C'était très malaisant. Je devais frapper une femme à l'écran pour le principe du gag Juste pour rire. On l'a tourné juste avant le fameux, toutes les féminicides qui ont été mis de l'avant, enfin,
Oh
qu'on a
mon
arrêté
Dieu.
de taire la violence faite aux femmes, etc. Mais moi, j'étais en plein parc à Montréal, au port, en train de faire semblant, mais de façon très réaliste pour le faire croire aux passants, que je suis en train de frapper une femme dans le visage. Je me suis vu à l'écran, puis je l'ai vu, j'ai fait comme, OK, oui, ben, je suis bon dans mon rôle, mais Colin, j'ai pas le goût d'avoir ça nécessairement dans mon CV non plus. On comprend que c'est un gag, on comprend que c'est une mise en
Mais t'as
scène.
ressenti un malaise.
Totalement, totalement. Fait que, tu sais, il y a des choses que. Il y a un rôle que j'ai pas eu qui était dans Unité 9. C'est Marc-André qui l'a eu justement, de faire le viol de Jeanne dans une scène très difficile. Je l'ai pas eu, je suis content. Parce que, tu sais, même si c'est un rôle, c'est une composition, j'aurais pas aimé mettre en scène de faire un viol qui est une dégueulasserie de l'humanité. Tu sais, fait que j'aurais pas été content de voir ça par après. Fait que, tout dépendamment de ce que j'ai fait, c'est sûr que j'ai tout le temps un jugement, malgré ma beauté apparente. Mais c'est toujours dans l'humour, bien sûr. Mais il faut juste que tu passes à côté, faire comme, hey, ça a été cool, ça a donné ça,
Ah, mais
je
j'aime ça, mais tu es très proche de tes valeurs et tes convictions.
Ouais.
Ça en dit beaucoup sur la personne que tu es. En terminant,
t'es
oui.
fin.
Y a-tu des gens qui reculent? Tu sais, là, tu parles de ce genre de scène-là difficile. Y a-tu des gens qui font l'audition, qui l'ont, puis que c'est trop difficile, puis décident finalement de reculer, ou quand tu es à contrat, puis tu passes à travers?
C'est arrivé, puis ça m'a donné un contrat, justement, je crois que dans Mafia Inc., je l'ai eu parce que quelqu'un avait justement reculé. Il y avait beaucoup d'intimidation à créer pendant le tournage, ben pas de la vraie intimidation, de jouer l'intimidation, puis la personne ne sentait pas à l'aise de le faire. Fait qu'il y a des gens qui reculent, mais c'est plutôt rare, puisque les gens qui sont là ont faim aussi, la majorité, c'est des gens qui commencent ou qui font ça comme, qui veulent devenir absolument acteurs. Ce sont très rares, les comme moi, qui font, ben, je m'en viens m'amuser, chum, je viens jouer avec vous autres, puis on va me donner de la nourriture puis de l'argent. Fait que cool.
Oh mon Dieu, je tiens à te partager certains textos qui sont entrés, là. Les auditeurs apprécient vraiment la discussion qu'on a ce matin. On nous a dit, c'est tellement intéressant des entrevues champ gauche comme ça, des domaines qu'on connaît moins. Ça fait différent des gens qu'on voit trop souvent. Bref, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il a adoré l'entrevue qu'on vient de faire, David. Je tiens à te passer le message. C'est vrai
C'est
qu'on ne
fin.
connaît pas ce genre de domaine-là, fait que c'est le fun de satisfaire la curiosité qu'on a là.
Y a-t-il des gens qui sont pas contents? Y a-t-il des gens qui sont pas heureux de notre entrevue et qui me trouvent
Je te dirais qu'il y a à peu près une centaine de filles qui écrivent pour dire que t'es pas si beau que ça.
Ouais, ça c'est normal. Sincèrement, moi, te le dire bien franchement, mon loup, écoute, je reçois tellement en proportion, honnêtement, un 90% de messages, 95% de messages d'hommes qui, eux ont du goût. Ils me trouvent beau, eux. Des
C'est
fois, c'est
drôle.
très déplacé. Sincèrement, les demandes peuvent être très déplacées. Vu que je suis pour les hommes homosexuels, un bear qu'on appelle, ça peut être particulier, mais eux ont du goût au moins. Et au niveau des femmes, c'est souvent comme « Ma mère t'a trouvé cute. » Oh, merci, je me sens choyé et vraiment valorisé.
Ben, bâtis ta confiance là-dessus, quand même.
C'est pas facile.
David Nolan, ça a été un plaisir.
Yes!
On se rejasera si tu veux éventuellement de ta carrière d'homme fort. J'ai
Ben oui.
l'impression que ça peut intéresser bien des gens aussi.
Ben, ça va me faire plaisir. Merci à vous deux. Vous êtes excellents. Vous avez des super bonnes questions. Puis Audrey, t'es bien meilleur que ton chum. Je vous embrasse. Merci.
Salut.
Salut, bonne journée, David.
Bye bye. Quelle belle discussion intéressante avec David Nollet. Non, j'ai appris plein de choses. Je ne savais pas comment les gens fonctionnaient pour pouvoir rentrer comme figurant pour des séries ou encore des films ou de la publicité.
Mais tu as l'impression que c'est un milieu qui est tellement fermé. On dirait que tu ne sais pas par où passer. Je trouve ça super intéressant. Puis,
la seule relation que j'ai eue avec l'UDA, moi, c'est qu'à un moment donné, c'était Pierre Michaud qui faisait une émission de fin de semaine.
Okay.
C'est comme une émission d'actualité qui passait sur les zones de VTL. Pierre Michaud n'était pas à l'écran, mais il produisait cette émission-là. Puis c'était Alain Jean-Marie, de mémoire, qui était un animateur de Rythme FM à Montréal avec une belle grosse voix soivée, là, qui était à l'écran. Puis à côté de lui, il y avait un téléviseur sur lequel il y avait les nouvelles de la journée. Fait qu'il faisait comme un genre de wrap-up des news de la journée qui avait été écrit sur les différents médias, que ce soit Journal de Québec, Le Soleil, La Presse, Radio-Canada. Puis il y avait un moment où il y avait un segment sport. Puis le gars qui était là d'habitude devait prendre des vacances. Puis on dit, Marceau, tu veux-tu le faire? J'ai dit, ben oui, ça va me faire plaisir de te dépanner. C'est un gars avec qui je travaillais dans mon ancienne vie radio. Fait que je dis, OK, c'est beau, je vais y aller. Mais là, c'est faut que tu t'inscrives à UDA temporaire.
Oui.
Mais moi, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Fait que UDA temporaire, puis là, je me suis dit, ils vont sûrement me payer. Écoute, c'était si je ne me trompe pas, c'était autour de 500$ par matin.
C'est capoté, là.
Je parlais 2 minutes aux 15 minutes.
Oui. Mais il l'a bien expliqué. Tu parlais, fait que le cachet est un peu plus élevé.
Ouais.
Mais c'est fou.
Mais demande-toi pas pourquoi la télé va si mal. Je veux dire, tu parles 2 minutes aux 15 minutes, ça te donnait de mémoire 500$ par matin. Mm. Ça avait aucun bon sens. Tu sais, ça valait pas ça. Mais en même temps.
Ben comme, là, tu le prends. Puis tu
comme David. Je pense que les gens étaient chanceux de m'avoir dans leurs écrans.
C'est ça.
M'emmener pour ça se paye.
Il est vraiment cocasse. Puis, honnêtement, c'est un gars qui est très, très sympathique. Puis qui a eu, tu sais, il ne parlait un peu, mais une enfance assez rock'n'roll au niveau de l'intimidation, ce qui l'a mené à vouloir physiquement se transformer puis à se dépasser, ce qui fait qu'il est devenu un homme fort. Puis aujourd'hui, bon, la confiance.
C'est un survivor. Il a eu le cancer là, aussi.
Oui, aussi. Ça aussi, on pourrait l'aborder éventuellement. C'est un gars qui est très, très. Très sympathique. 88-971-1021, ça sent que vous avez apprécié l'entrevue. Moi, ça satisfait une grande curiosité chez moi.
11h05, on revient. Rage Against